J'aime toujours à vous embrasser tous dans un grand regard, sachant qu'un plus grand que moi, le Père des miséricordes, le Dieu de toute consolation, nous regarde en ce moment avec cet amour qui n'oublie personne. Oh, combien il voudrait que vous vous sachiez aimer de lui, que vous réalisiez quelque chose de son grand amour. Savez-vous qu'il vous veut chez lui? C'est quelque chose quand même. Dans sa maison, la maison du Père, où il y a plusieurs demeures, et que le Seigneur, vivant, après avoir triomphé du péché, de la mort, du sépulcre, il y est monté et il est allé nous y préparer une place pour vous que nul autre n'occupera, mais vous, vous occuperez cette place. Et il la prépare individuellement avec amour. L'entrée, c'est pas la grande fournaise, c'est chacun qui y entrera et qui sera reçu personnellement. Et le Seigneur vous présentera à son Père. Quel moment! Et le Père pourra constater toute l'œuvre du Fils en lui. Et quelque chose de plus merveilleux encore, il y verra la ressemblance de son Fils. Car vous serez rendu tel qu'il est. Et Jésus ne sera pas jaloux. C'est fantastique, vous ne trouvez pas, d'avoir des frères et des sœurs. Le Père a des enfants d'adoption, des hommes et des femmes en qui il pourra mettre tout son plaisir pour l'éternité. Et vous savez, n'ayez pas peur. Une petite fille disait, on me l'a rappelé cet après-midi, mais au ciel, pense pas que ça sera plat. Non, ça sera pas plat. Mais c'est bien les enfants, au moins ça pose des questions valables. Alors, si c'est pas plat là-haut, vous devriez vous réjouir d'y aller et travailler justement à votre propre salut avec crainte et tremblement, comme l'a exprimé notre bien-aimé frère dans sa prière. Oui, parce que, vous savez, prêcher au nom de Jésus, c'est une responsabilité. Et je sais toujours que mon premier auditeur, c'est le Père lui-même. Comment est-ce que j'ai parlé de son fils? Nous tremblons chaque fois. Nous ne nous habituons pas à prêcher, non, c'est pas vrai. Mais nous nous tenons devant lui. Et alors, vous vous souvenez comment commençaient les prophètes? Il disait, l'Éternel, devant qui je me tiens. Il n'avait pas passé des heures devant la télévision pour s'informer d'un sujet actuel, pour pouvoir parler de choses qui intéressent les gens, parce que vous les avez vus, parce que vous avez entendu parler de cela, puis vous voudrez savoir encore d'autres choses, si la Bible aussi en parle. Les dernières nouvelles, mes amis, elles sont dans la parole de Dieu. Et c'est cette parole que nous devons connaître. Et voyez-vous, vous connaissez ce thème que les responsables du groupe biblique de la rive sud ont choisi, oui. Je viens bientôt. Thème de ce séminaire de trois journées, une des dernières paroles du livre de l'Apocalypse, chapitre 22, verset 20e. Alors je pense, mes bien-aimés, que ceux qui ont été ici ces soirées ont été rendus capables de savoir quelle influence la seconde venue du Seigneur Jésus a dans leur vie. Je veux croire que vous êtes arrivé à faire quand même le point, vous qui avez suivi ces trois soirées. Et alors, en vous souvenant de la parole tranchante de l'apôtre Paul, que Dieu soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, Romains 3, verset 4, pouvez-vous répondre à la seconde question du programme qui vous a été donné? L'attendons-nous vraiment? La première question, c'était, quelle influence est-ce que la venue du Seigneur a sur nos vies? Puis vous aviez mis une seconde question, l'attendons-nous vraiment? Eh bien, il me semble qu'au soir de cette dernière journée du séminaire, que vous devez pouvoir répondre. Mais je vous dis, souvenez-vous de cette parole, que Dieu soit reconnu pour vrai, et tout homme pour menteur, et notre frère l'a signalé, on chante dans nos cantiques certaines paroles, mais on voudrait vraiment les réaliser, éprouver ce que nous chantons, parce que c'est si facile de se laisser entraîner dans le chant. Et puis alors, c'est ce que j'ai dit quelquefois, on arrive à blasphémer dans nos milieux évangéliques en chantant d'une certaine manière, plus qu'on blasphème dans les tavernes. Dans les tavernes, vous pouvez entendre sacré tout ce que vous voulez, hein, c'est le monde. Mais que nous puissions chanter des cantiques, des paroles qui nous enlèvent comme ça psychiquement, mais dont nous ne réalisons pas le sens, la profondeur, la valeur, eh bien c'est un blasphème. Et le Seigneur dit, j'en ai assez du bruit de vos cantiques. Il voudrait nos cœurs. Ce peuple m'honore des lèvres, mais leur cœur est fort éloigné de moi. Vous savez, votre Père des cieux, Père des miséricordieux de toute consolation, il a un cœur sensible. Et vous savez, quand je finis une mission, c'est presque toujours dans les larmes que je la termine, parce que mon Seigneur, mon Sauveur, il a terminé son ministère en pleurant, en disant, si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient point de péché, mais maintenant, leur péché est demain. C'est pas dans une atmosphère de triomphalisme que le Seigneur a institué le mémorial de son amour. Mais c'est dans l'angoisse, c'est dans la souffrance, dans la sueur sanglante, dans l'agonie de Gethsémani, où il a aussi prié pour vous, qui êtes ici ce soir, et que le Père voudrait attendre à son Fils, oh, que le Saint-Esprit opère avec une telle puissance ce soir, que ce ne soit pas les paroles d'hommes, mais l'action du Saint-Esprit qui nous est donnée par le Père, qui vous attire à ce Jésus qu'on ne met pas à toutes les sauces, mais ce Jésus devant lequel on se prosterne, ce Jésus qu'on adore. Mon Seigneur et mon Dieu. Qui est-ce qui disait cela? Un disciple, mais dont le cœur avait été surpris par l'incrédulité. Pourtant, 3 ans à l'école biblique de Jésus, il l'avait entendu dire plusieurs fois qu'il ressusciterait le 3e jour. Mais comme il ne voulait pas que Jésus meure, ses disciples, eh bien, il n'avait pas fait attention que le 3e jour, il ressusciterait. Et il n'avait pas fait attention qu'on pourrait le retrouver en Galilée. Alors ils allaient au tombeau, puis c'est les anges qui devaient leur dire, mais il n'est pas ici, pourquoi cherchez-vous parmi les morts? Celui qui est vivant, vous le trouverez en Galilée comme il vous l'a dit. Comme il vous l'avait dit, je vous l'avais dit, puis on avait oublié. Et les femmes se ressoudinrent. Il avait dit ces choses. Vous voyez comme on est oublieux. Eh bien, il a dit oui. je viens bientôt. Alors, est-ce que vraiment nous avons pu dire, et nous pouvons dire maintenant, ce soir, amen, viens, Seigneur Jésus. Dieu veuille que notre pensée ne soit pas autre que ce qui sort de notre bouche, comme le dit le psaume 17, verset 3. Parce qu'on a des fois des paroles, hein, mais ça ne correspond pas exactement à nos pensées les plus secrètes et les plus cachées. Oui, je veux bien dire, viens Seigneur Jésus, mais dans mes pensées, attends encore. Voyez-vous, tout est nu, tout est découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Et j'ai bien aimé que notre frère parle que Dieu est aussi un feu consumant. Et il faut en prendre conscience. Alors, mes bien-aimés, hier soir, après avoir lu quelques textes de l'Évangile nous montrant comment Jésus enseignait qu'il fallait l'attendre, il enseignait ses disciples, donc, au cours de ces 3 années, à l'attendre quotidiennement, une fois qu'il serait parti. Il leur avait dit à plusieurs reprises qu'il reviendrait et il leur avait montré comment ils devaient l'attendre. Nous avons lu Matthieu 24, nous avons lu Luc 12, et il était dit « Heureux le serviteur que le maître trouvera veillant quand il viendra ». Et alors, après avoir fait ces lectures hier soir, nous avons dit que dans cette dernière heure, nous chercherions à répondre à 4 questions par la parole de Dieu. Mais déjà, au début de ce séminaire, je vous ai averti que le temps était trop court pour traiter ce sujet capital et que je ne pourrais qu'effleurer un tel sujet qui est un des plus importants de l'Écriture sainte. La première question, c'était maintenant, comment s'effectuera son retour? La deuxième, peut-on discerner dans les Écritures l'époque de son retour? Est-ce qu'il y a des signes qui pourraient nous permettre de penser vraiment que le retour du Christ est proche, qu'il est imminent, bien, et c'est cette hantise de l'an 2000, comme avant l'an 1000, on y croyait aussi, et puis maintenant, voilà, on va arriver à l'an 2000, alors tout à coup, voilà, on voit une floraison de livres qui sont écrits au sujet du futur, et beaucoup de chrétiens font même des affaires avec cela, n'est-ce pas? On n'a jamais publié autant de livres sur l'Apocalypse. J'aime beaucoup l'Apocalypse. Mais je vous invite à lire ce livre, non pas tellement pour connaître l'avenir, mais pour apprendre à prier, pour apprendre à adorer. Le livre de l'Apocalypse, c'est un livre plein de prières, c'est un livre plein d'adoration. Alors vous saurez comment on adore au ciel, ce que l'on dit au ciel, ce que les saints expriment devant le trône du Père, et nos cultes seront tout transformés. Mais si vous me faites tenir l'Apocalypse pour y trouver la succession des événements qui vont venir, bien vous meublez peut-être votre intelligence si vous y lirez un autre bouquin qui dit tout autrement, et vous serez absolument confus, puis vous fermerez l'Apocalypse en disant « ça vaut pas la peine que je lise cela ». Or, c'est pourtant la révélation de Jésus. Bienheureux celui qui lit, bienheureux celui qui comprend, bienheureux celui qui garde les paroles de ce livre. Mais avec toute cette littérature de tous les milieux, même fondamentalistes, on n'arrive plus à s'y reconnaître. Peut-on discerner dans les Écritures à l'époque de son retour? Et puis, j'avais posé une 3e question. Quel est le but de sa seconde venue? Et enfin, quels sont ou quels seront les résultats de son retour, puisqu'on me l'a demandé, pour l'Église, pour Israël et pour le monde? Vous vous rendez compte que en cette soirée, je ne peux guère traiter toutes ces questions en profondeur. Mais si nous les esquissons au moins, peut-être que cela va vous donner le goût de les approfondir en faisant vous-même une lecture de l'Écriture et en vous disant, puisque Jésus a dit, je te loue au Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais que tu les as révélées aux petits-enfants, ben moi je suis un petit-enfant, j'ai besoin que tu m'enseignes. Et puis, puisque tu as dit que tu donnais de l'intelligence, tu nous donnerais de l'intelligence en toutes choses, hein, bien je te la demande, fais-moi comprendre, mais saisissez bien que une parole difficile peut-être va être éclairée par une autre parole. Alors vous vous mettrez à lire toute la Bible. Je suis bien d'accord avec vos lectures dévotionnelles, votre petit partage, votre petite lecture matinale, je l'ai fait aussi, un quart d'heure sur 96, n'est-ce pas, il y a 96 quarts d'heure dans une journée. Alors si vous mettez un quart d'heure pour le Seigneur, voilà, vous êtes en ordre, dites bon, et puis il ne vous tombera pas de tuiles sur la tête. Mais ça ne vous instruit pas vraiment cela. Oui, c'est un viatique, cela vous fait du bien, mais ça ne vous donne pas une connaissance biblique. La vraie connaissance biblique, on commence à la voir quand on lit depuis la première page jusqu'à la dernière. Et puis même les chapitres où il n'est parlé que de noms, hein, ces noms un peu accouchés dehors, hein. Eh bien oui, moi je ne connais pas vos noms, mais je sais très bien que quand vous passez un examen, puis que vos noms sont publiés dans le journal, eh bien vous lisez tous ces noms pour trouver le vôtre, hein, parce que c'est quand même intéressant s'il y avait le vôtre dans le journal. Eh bien, ces gens, ils ont vécu. Alors, vous pouvez aussi lire dans les généalogies, et puis tous ces noms, ils veulent dire quelque chose. Ils ont un sens, et il y a des perles dans toute l'Écriture. Alors, mes bien-aimés, oui, nous chercherons à répondre, même brièvement, à ce que seront ces résultats pour l'Église, pour Israël, et pour le monde. Et dans la dernière partie de mon exposé d'hier, j'ai cherché à établir par les Écritures d'abord le fait de son retour, parce qu'il y en a qui le nient. Alors nous voulions bien établir le fait de son retour et la place importante qu'a cet événement dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament. Et je vous ai rappelé qu'il y avait plus de 1500 textes dans l'Ancien Testament, qui parle de cette venue glorieuse, donc de la deuxième apparition du Seigneur, de sa venue en gloire. Cet Ancien Testament qui nous a annoncé déjà, avec une précision extraordinaire, sa première venue dans un corps de chair sans péché qui avait été façonné dans le sein de la Vierge Marie. Et ce sont les évangiles qui nous rapportent ces 7 degrés d'humiliation que le Fils de Dieu, qui était Dieu lui-même de condition divine, a accepté pour lui-même, pour venir ici-bas et paraître en figure comme un homme. Figurez-vous, lui qui était Dieu lui-même, il a accepté ce degré d'humiliation, la conception dans le sein d'une femme. Il n'a été qu'une substance informe, comme le dit le psaume 139, dans le sein de Marie. Lui qui était en forme de Dieu, une substance informe, lisez le psaume 139. Et puis il y a eu cette formation pendant 9 mois dans le sein de Marie qu'il a portée. Oh, que j'aime, j'en ai parlé ce matin, cette Marie toute jeune qui est maintenant enceinte du Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre cela, mais qui va saluer la vieille Élisabeth qui elle aussi, selon la chair, était au bout du rouleau et puis elle était stérile, donc il n'y a rien de charnel dans tout ça. Une vierge qui est enceinte, c'est pas charnel, et puis une femme qui est âgée et qui ne pouvait pas avoir d'enfant, qui était stérile toute sa vie. Il n'y a rien de charnel dans tout ça. Mais quand le Saint-Esprit est là, quand le Saint-Esprit opère, quel culte, quelle louange à la vieille Élisabeth qui parle à la toute jeune Marie et qui l'encourage. Voilà les relations entre jeunes et vieux. Il n'y a pas besoin d'une jeune église séparée des vieux. C'est ensemble que vous devez être et c'est ensemble que vous devez former une famille. C'est une richesse merveilleuse là. Et nous avons aussi tendance qui viennent du monde de tout séparer, comme si les jeunes avaient besoin d'un message particulier, comme s'ils n'étaient pas capables de comprendre, si vous saviez ce qu'ils peuvent déjà comprendre. Et alors, voilà, on arrive dans ces spécialisations et puis on s'appauvrit de plus en plus dans toutes nos communautés chrétiennes. Et bien que le Seigneur renouvelle la face de nos communautés et qu'on puisse y voir encore jeunes et plus âgés ensemble, en même cœur, autour de la personne glorieuse et bénie de notre Seigneur qui est au milieu de nous. La conception, puis après sa naissance. Lui qui vivait dans le temps tout au gloire, il naît dans une crèche, deuxième degré d'humiliation. Puis ensuite son éducation, il est éduqué par des hommes, Joseph et Marie. Et il leur était soumis. Voilà le maître de l'univers soumis à une jeune maman et à son mari Joseph. Et puis, son baptême, quand il va au bord du Jourdain, il entre comme s'il était un pécheur, comme tous les autres. Il s'identifie à notre humanité et il entre dans le Jourdain pour y prendre tous les péchés que ont confessés ceux qui se faisaient baptiser par Jean. Il n'est pas entré pour ses péchés, il était sans péché, mais il est entré pour prendre tous ses péchés sur lui. Et c'est alors que le ciel s'est ouvert et que la parole du Père a retenti « C'est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon plaisir. » Et après son baptême, ses 3 années de ministère, sa fréquentation des hommes. Vous trouvez que c'est intéressant de nous fréquenter, nous les hommes, avec nos sales caractères, et ces caractères de disciples-là qui ne pensaient qu'à eux-mêmes, qu'à avoir la place à côté du Seigneur, à sa droite ou à sa gauche, qui se jalousaient. C'était pas drôle. Et Jésus a eu des moments où il dit, oh génération incrédule et perverse, jusqu'à quand vous supporterez-je? À qui dit-il cela? À ses disciples. C'était pas facile de vivre avec ses hommes. Eh bien, lui qui était au ciel avec le Père et dans la compagnie de tous les saints anges, devoir vivre avec des hommes tels que nous. Eh bien voilà, c'est son humiliation. Il apparut en figure comme un homme. Puis alors vous avez sa passion, sa mort, son obéissance à son Père l'a conduit jusqu'à la mort et à la mort ignominieuse de la croix. Et non seulement à la mort, mais on a descendu son corps. On l'a décloué et puis on l'a mis dans le sépulcre. De la gloire aux profondeurs du Sheol, du séjour des morts. Voilà ce qu'a connu notre Seigneur. Et tout cela était écrit dans l'Ancien Testament. Je ne vais pas revenir sur ce sujet, mais j'insiste pour ceux qui sont venus peut-être pour la première fois pour vous montrer l'importance de lire l'Écriture et de croire que les prophéties, les choses qui sont annoncées ont un accomplissement littéral. Mais cette humiliation du Seigneur allait être suivie, comme vous le savez, de son élévation dans une gloire aussi haute que son abaissement avait été profond. Vous avez cela dans Philippiens chapitre 2, que certainement vous lisez assez souvent dans vos cultes, n'est-ce pas? C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus se ploie tous genoux des êtres célestes, des êtres terrestres et même des êtres infernaux. Tous les démons sont à ses pieds. Elle adore. Ah, mes amis, l'adore. Mais est-ce que nous serons près de lui ou loin de lui? Dans une séparation éternelle. Mais on ne pourra pas faire autrement que l'adorer, mais sans avoir la communion. Et c'est ça les peines éternelles. C'est ça ce feu qui vous brûle. Si j'osais employer cette expression que j'ai déjà prise quelques fois, n'est-ce pas, il vaut mieux se marier que de brûler. Accepter l'alliance maintenant, accepter l'union maintenant, pour ne pas brûler après, sans pouvoir être pleinement dans l'union éternelle avec le Seigneur. Faites attention quand vous parlez de l'enfer, vous voulez faire peur aux gens, et puis vous les rendez encore plus incrédules, parce qu'ils disent alors il sera pire qu'Hitler, hein, qui gazait les gens avant de les faire brûler au crématoire. Et alors on parle d'un feu comme cela, n'est-ce pas? Alors on dit, mais votre Dieu, il est monstrueux, que vous voudriez que je croie en ce Dieu-là? Mais c'est tout autre chose, mais nous sommes tellement peu imprégnés de l'Écriture, tellement peu imprégnés de l'Esprit de Dieu, nous donnons des images, comme c'était dans le Moyen-Âge, n'est-ce pas? Et puis nous repoussons une foule d'âmes, nous mettons des pierres sur le chemin des croyants, des incroyants, et nous les empêchons de venir plus près de Jésus. Soyons plus humbles, soyons plus simples. Et soyons davantage dans l'esprit de saint Paul qui disait comme son prédécesseur Moïse, efface-moi plutôt de ton livre, mais sauve-les ces gens-là. Quand vous voyez des inconvertis, c'est cela. Il ne faut pas leur dire, ben moi, vous savez, je suis sauvé, moi j'irai au ciel, puis vous, si vous ne convertissez pas maintenant, hein, c'est le dernier moment, il y a une auto qui va vous frapper sur la rue, et puis ça sera fini, hein. Vous aurez les peines éternelles, puis l'horloge qui est toujours. Vous savez, hein, oui, mais non, quand on est évangéliste, hein, on fait flèche de tout bois souvent. Et alors on veut émouvoir, on veut provoquer des décisions subites. Et vous savez bien ce qu'elles font, ces décisions subites. On en a parlé ce matin, des conversions sans repentance. Émotionnelles. Oh, moi, je crois aussi aux émotions profondes et réelles. Et ce soir, je suis bien ému aussi, parce que je vous aime. Et je désire que vos cœurs soient aussi émus. Mais nous ne voulons pas exploiter des moyens psychiques pour vous amener à croire. Parce que nous savons bien qu'il n'y a que le Père qui attire les âmes à Jésus. Et s'il n'y a pas cet attrait du Père, cette attirance du Père, qui nous lui appartenons de toute façon, Père, c'est lui qui nous a créés. C'est lui qui fait naître. Alors nous lui appartenons, même si nous ne le savons pas. Et puis il nous attire à Jésus. Et Jésus nous sauve, puis nous redonne au Père. C'est pourquoi on n'est pas orphelin, on n'a pas seulement un Jésus pour nous, mais on a le Père. Jésus nous a redonné au Père. Et désormais, nous sommes dans la main du Père, mes bien-aimés. Alors, dans les évangiles, donc, et dans les épîtres, nous trouvons 318 textes annonçant le retour du Seigneur, et ce que nous disions, la proportion d'un verset sur 25. Alors, cela est tellement vrai, la pensée du retour du Seigneur, que toutes les églises l'affirment dans leur credo. Elles affirment que Jésus reviendra. Il reviendra pour juger les vivants et les morts. Et vous savez, moi qui me réjouis toujours quand je vois que le Saint-Esprit travaille, je me souviendrai toujours que quand le père Duval, un prêtre français, a composé la petite chanson « Le Seigneur reviendra, il reviendra, la nuit tu ne l'attends pas », etc. C'était tellement beau et je me suis tellement réjoui. Et je me souviens toujours d'un soir où le père Duval chantait à Nice où j'habitais. Eh bien, il y avait 10 000 personnes rassemblées à Nice sur la promenade des Anglais, au jardin Albert Ier. Et je me souviendrai toujours de cette soirée sous le clair de lune. Et puis, quand il a eu rendu son témoignage, et puis qu'il a eu chanté plusieurs de ses chansons, que peut-être vous avez connues, eh bien, il a dit à la fin, « Que voulez-vous que je vous chante encore ?» Ou que je vous apprenne ? Il n'y a eu qu'un crie, le Seigneur reviendra. C'est comme, alors je me disais, mais si aussi dans cette église romaine on commence à comprendre cela, et je voyais au fond que c'était le besoin des cœurs, c'était le besoin de la foule, c'était le Seigneur reviendra qu'ils ont demandé. Le Seigneur reviendra, ça correspond à un besoin. Bien maintenant le Père Duval est auprès du Seigneur. Et alors, chaque jour, à l'Eucharistie ou à la Sainte Cène, et on annonce son retour, puisqu'on dit jusqu'à ce qu'il vienne, à cette suprême action de grâce, jusqu'à ce qu'il vienne. Donc, c'est pas une théorie étrangère ou qui serait le fait de certaines sectes. Et pourtant, malgré tout cela, un grand nombre, le plus grand nombre des baptisés, ne l'attendent pas, ou vivent dans l'ignorance de cette vérité, parce que les consisteurs spirituels n'en parlent pas. Dans nos milieux évangéliques, on m'a même dit, vous avez écrit un livre sur le retour du Seigneur, mais est-ce que vous osez encore parler du retour du Seigneur aujourd'hui? Oui, des milieux très fondamentalistes, parce qu'il n'est pas venu jusqu'à maintenant. Et alors, est-ce qu'on ose encore parler de cette venue? Alors, comment reviendra-t-il? Voilà ma première question. Vous direz, il met du temps pour y arriver. Mais j'ai demandé au Seigneur que je ne dise que ce que lui veut que je dise. Hein. C'est ça qui est plus important. Hein. Un jour, il m'a dit à Jérusalem, ouvre ta bouche toute grande et je la remplirai. Hein. Ne structure pas toi-même d'abord. Laisse-toi guider par l'Esprit selon les besoins que tu peux ressentir et éprouver. Alors, comment reviendra-t-il? Je n'ai nulle envie de satisfaire votre curiosité et je n'essayerai pas de vous en dire plus que l'Écriture n'en dit. Parce que c'est ça le grand drame. Et on a lu le premier soir ce chapitre de l'Apocalypse, ne rien ajouter et ne rien retrancher. Or, il y a des ces livres qui sont même recommandés dans nos milieux où l'on peut lire « Laissons courir notre imagination ». Voilà, pour parler de l'enlèvement du Seigneur, de ce qui va se passer dans un avion, le pilote est enlevé, puis qu'est-ce qui va arriver à l'avion, et puis le carambolage des voitures dans un feu rouge, parce que tout à coup, les saints des derniers jours sont enlevés, et puis les pauvres types, là, ben, ils s'écrabouillent. Oh, j'ai vu dans une voiture où un pasteur me conduisait en Galilée, il avait mis une petite plaque, en cas d'enlèvement, je prie celui qui est à côté de moi de reconduire ma voiture à l'église, misère à poil. Si c'était moi qui étais enlevé, puis pas lui. Mais ils ont tout prévu. Je ne veux pas vous dire quelle nationalité il avait, assez proche d'ici. Mais n'est-ce pas, comme si le Seigneur n'était pas un dieu d'ordre, au cri de commandement, à la voix d'archange, au son de la trompette de Dieu. Vous savez, tout se passera dans l'ordre. Il y aura certainement une action angélique dans la création, parce que quand il est dit qu'il vient avec les nuées du ciel, eh bien, il y a toujours les anges. Les nuées du ciel sont les anges, symboliquement parlant. Alors, nous voulons être sobres et ne pas laisser courir notre imagination. Parce que ça, c'est pas du tout biblique. Et alors on arrive qu'à la confusion. Mais une étude approfondie des textes que vous allez lire et relire vous-même nous donne des certitudes. D'abord, Jésus dit, si vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, je vais vous préparer une place. Et si je m'en vais et que je vous prépare une place, je reviendrai. C'était le chapitre 14 de Jean. Donc nous sommes sûrs des paroles de Jésus. Puis il a dit, Père, je veux, quant à ce que tu m'as donné, que là où moi je suis, ils y soient aussi avec moi. Donc le lieu où nous serons, nous savons que c'est où il se trouve, n'est-ce pas? Bon, dans la maison du Père. Et les anges, dans Acte 1, verset 11, quand ils apparaissent aux disciples qui ont les yeux fixés sur Jésus, qui vient de s'en aller au ciel, leur disent, ce Jésus que vous avez vu s'en allant au ciel reviendra de la même manière. Donc, il viendra corporellement, ils l'ont vu corporellement s'en aller au ciel. Et alors, le Seigneur a confié à ses apôtres, spécialement à Paul, alors je vous cite les passages, je ne pourrai pas tout lire, mais au chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens, verset 51, « Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous. » Vous le croyez? Si ça vous arrivait de ne pas mourir, misère, vous avez déjà fait votre préarrangement. Quand même triste, hein? Oh, c'est pas contre les pompes funèbres. Il n'y a pas d'action, là. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Que c'est triste. Je ne veux pas mourir. Nous ne mourrons pas tous. C'est beau. Mais nous serons tous changés. Ah, on ne va pas entrer ça comme ça. Avec nos pauvres corps de misère, avec nos rhumatismes et tout le reste. Mais non, mes amis, nous serons changés. Ce serait une longue opération ? En un instant, en un clin d'œil. Rendez-vous compte ? C'est ça, quand Dieu opère, il n'essaye pas. Une parole, et c'est la vérité. Hein? En un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles. Comment ? Et ça, c'est la puissance de Dieu. Et nous, nous serons changés. Nous, si nous sommes vivants à sa venue. Car il faut que ce corruptible, c'est nos morts en Christ, revêtent l'incorruptibilité et que ce corps mortel, c'est ce qui nous caractérise, nous les vivants, on a un corps mortel, revêt l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira, vous voyez que les choses doivent encore s'accomplir, alors s'accomplira, et c'est une parole de l'Ancien Testament, la parole qui est écrite, la mort a été engloutie en victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire. Pas une certaine victoire ou quelques victoires, mais qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Quand vous priez, allez à Dieu avec cela et dites-lui, tu as dit que tu nous donnais la victoire. Sur ce point-là, je n'ai pas la victoire. Eh bien, tu l'as dit, Seigneur, je le crois, réalise-le. C'est ça nos prières. C'est pas faire le tour du monde ou dire, oh, j'essaye de prier. Mais nourrissez-vous de la parole de Dieu et puis allez à Dieu avec ces textes comme il est dit ici, si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne, jette-toi dans la mer. Hein. C'est vrai. Prenez la parole au sérieux. Quelqu'un l'a dit ce matin qu'il avait pris la parole au sérieux et que cette parole était devenue lumière. C'est vrai, je l'ai réalisé aussi. Bien des fois, dans toute espèce de circonstances, dans ces 50 années de ministère qui sont derrière moi, par la grâce de Dieu, il est fidèle. Prenez maintenant, alors on a besoin d'explications, quand on a lu ça, on se dit, mais je voudrais en savoir plus. C'est ça que fait l'Écriture. Nous ne sommes pas barbés par l'Écriture, hein, mais nous sommes intéressés, nous sommes captivés, et je voudrais que ce séminaire vous donne le goût de la parole de Dieu. Que vous ne soyez pas simplement des gens qui disent « Oh ben, on viendra à une prochaine mission ou à une retraite ou bien, que sais-je, à un nouveau séminaire ou à des réunions. » C'est pas cela, mais j'étudie pour moi-même. Mais dans la communion de mes frères, puis je partage aussi ce que le Seigneur m'a montré, puis je me laisse corriger sur des points où peut-être j'ai mal compris. Nous avons besoin du ministère de nos frères, puis il y a des ministères qui ont été donnés pour l'édification de l'Église. Alors, chapitre 4 de la première aux Thessaloniciens, mais c'est toute cette épître que vous devriez lire. Et je dirais ici que la venue du Seigneur, ça devrait être une des premières vérités qu'on devrait annoncer à des nouveaux convertis. Vous pouvez être sûr de cela. Ça devrait être une des premières vérités à annoncer aux nouveaux convertis. Paul n'a été que 3 sabbats à Thessalonique. mais il leur en a dit assez pour que le monde dise de ces gens qui s'étaient convertis par le ministère de Paul, qui n'étaient restés que 3 semaines, le monde disait, ils se sont détournés des idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et attendre des cieux son Fils, Jésus qui nous délivre de la colère à venir. C'est tout un message. Hein. Il a donc dû leur parler de la colère à venir, mais il leur a parlé du Jésus qui venait avant la colère à venir et qui allait les délivrer. Et alors, ils attendaient le Seigneur, et puis comme il y en a parmi eux qui mouraient, ils étaient dans l'ignorance quant à ceux qui mouraient, et ils se disaient, voilà, ils sont morts avant le retour du Seigneur, et ils ont écrit à Paul. Et alors, ça a obligé Paul à leur écrire cette première lettre, la première épître de Paul, n'est pas l'épître aux Romains, comme on le voit en lisant, mais c'est la première épître aux Corinthiens, qui est la première lettre que l'apôtre Paul a écrite, à cause du retour du Seigneur. Et chacun de ces chapitres des Thessaloniciens, eh bien, chacun de ces chapitres contient une vérité concernant la venue du Seigneur. Mais c'est spécialement dans le chapitre 4 que je vous lis cela. Nous ne voulons pas, frères, verset 13, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Et ça me rappelle toujours, dans une grande église romaine, il y avait les gens qui étaient là avec leur Bible, ils étaient plus nombreux que vous ici, et puis ils avaient leur Bible, et puis on lisait cela, et puis je m'arrêtais, et puis je leur demandais, mais est-ce que vous croyez cela? Car si nous croyons que Jésus est mort, puis on s'arrête, hein, est-ce que vous croyez que Jésus est mort? Dis oui. C'est pas à dire vous êtes menteurs, oui, je crois que vous croyez. Si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, est-ce que vous croyez que Jésus est ressuscité, même si vous l'avez encore fait au crucifix? Ça, c'est qu'une image. Mais est-ce que vous croyez que Jésus est ressuscité? Oui. Il y a un oui qui vient du cœur, oui. Eh bien, croyons aussi. C'est une vérité qui a autant d'importance que la mort et la résurrection du Seigneur. Croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont décédés. Alors, s'il les ramènera quand il reviendra avec lui, c'est qu'il a dû les prendre avant. Et cela, nous l'avons dans toute l'Écriture. Il vient d'abord pour prendre les siens, afin que quand il reviendra pour être vu dans toute sa gloire, ce soit le Christ total qui soit vu. Car le Christ n'est pas qu'une tête. Hein. Maintenant, nous parlons toujours de la tête du corps. Puis nous sommes le corps. Mais quand il apparaîtra au monde, il apparaîtra dans sa totalité, dans son unité merveilleuse, tête et corps réunis. Et il est dit dans le premier chapitre de la deuxième épître aux Thessaloniciens qu'il sera alors admiré dans les saints et glorifié en tous ceux qui auront cru. Et c'est là que le monde croira que c'est vrai. Le monde qui n'a pas entendu l'évangile aussi. Quand il verra vraiment cette unité et que, au fond, dans chaque membre du Christ, il y a le Christ. Tête et corps, dans une unité merveilleuse. Que c'est beau, l'Écriture. Mais il faut la comprendre dans sa totalité. Donc les morts en Christ y participeront. Et même, il est dit que c'est eux qui ressusciteront premièrement, puis nous les vivants. Mon père disait toujours, eh bien, même si je dois mourir, eh bien, je verrai le Seigneur un demi-clin d'œil avant les vivants. Hein, parce que lui, il attendait le Seigneur dans sa vie. Mais il se consolait, bien, si je dois mourir, ben, je ne serai pas le dernier. Hein. Mais les morts ressuscitent premièrement, puis nous, les vivants aussi demeurons, nous sommes changés et enlevés avec eux, rassemblés sur les nuées du ciel pour y flotter dans l'espace. Mais non, mais ils n'arrivent pas à aller plus haut, façon de parler. Ils ne connaissent pas le chemin de la maison du Père. Car il faut un corps céleste, un corps glorieux pour pouvoir aller jusque dans la maison du Père. Tandis que nous, avec nos grands savants et tout ce qu'ils peuvent fabriquer pour les hommes qui vont voyager dans l'espace, eh bien, il n'arrive qu'à les faire flotter. C'est déjà quelque chose. C'est-à-dire qu'il y en a qui veulent se faire incinérer pour flotter ensuite dans l'espace. Non, ce n'est pas nécessaire. Ces petites boîtes là-haut dans l'espace, qui choquent, après chocs, des cadavres. La folie humaine, hein, ben voilà, nous sommes fous. C'est pas si fou que ça, la parole. C'est pour ça que je dis, on peut s'adresser à votre intelligence. Vous avez une intelligence quand même pour comprendre. Et puis pour mettre de côté certaines choses. C'est raisonnable de croire. Et de croire à la parole de Dieu, alors qu'on lit toutes les folies de science-fiction. Et puis on empoisonne notre jeunesse et nos enfants. Le Seigneur lui-même, verset 16, hein, vous voyez, c'est le Seigneur lui-même. Il a dit « Je viens », bientôt, et le premier soir, on a dit que le « je » concernait la personne du Seigneur. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Alors, rapprochez le chapitre 3 de 14 de Jean, verset 3, qui vous dit qu'il nous amènera dans la maison du Père, où nous avons des places qu'il nous a préparé. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur là où il est. Père, je veux que quant à ce que tu m'as donné, que là où je suis, il y soit aussi avec moi. Et il présentera ses rachetés à son Père en disant, me voici moi et les enfants que tu m'as donnés. Et il est ajouté, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Puis je pourrais vous citer Tite, chapitre 2, qui nous dit qu'il aura bien commencé, mais on trouvera des explications pour dire, je ne sais pas trop quoi, qu'il y a eu une descente de Martiens ou je ne sais qui pour enlever une partie des habitants du monde. Finalement, on ne pensera plus tellement à ceux qui sont partis parce que ça donnera du travail aux autres. Il y aura des places vacantes, n'est-ce pas? Et puis toutes ces fortunes que les chrétiens auront accumulées dans les banques et qui n'ont pas été employées pour l'évangélisation, eh bien, ça financera l'œuvre de l'Antichrist. Parce qu'il y en a un qui va venir, qui est peut-être déjà né, et qui a peut-être déjà un certain âge, mais qui d'un instant à l'autre peut paraître, parce que ça ira très vite. Et alors, les esprits de ceux qui seront restés seront détournés des absents, parce qu'on se console assez vite. Et au fond, ces gêneurs de chrétiens, ben, ils ne seront plus là, parce qu'ils sont gêneurs. On ne peut pas sacrer devant eux, on est mal à l'aise, ils ne veulent pas venir avec nous n'importe où. Alors, vous comprenez, au fond, ce sera une libération. Il y a tellement d'iniquité, tellement de péché maintenant, que si vous ne péchez pas, ben, vous êtes une brute. Ouais, c'est à peu près cela. Hein. C'est tellement désaxé maintenant, le monde. Vous paraissez extraordinaire, alors que c'est tout à fait ordinaire. C'est long Dieu. Mais Jésus lui aussi, il était un gêneur. Pourtant, il n'y en avait pas un qui accueillait comme lui. Et on était libre avec lui. On disait même, c'est un mangeur et un buveur. Quand on l'invite à table, il mange de tout. Et puis il dit pas, moi j'aime pas ça. Puis même, il boit un verre de vin. On disait, alors c'est un alcoolique. Non. Il faut avoir l'esprit mal tourné pour dire des choses comme ça et pour juger les autres qui ont certaines libertés. Attention, mais regardez à Jésus. Alors, nous attendons la bienheureuse espérance. Et puis ensuite, il est parlé, et l'apparition, l'épiphanie, le moment de l'apparition du Seigneur, alors dans la totalité de sa personne, c'est-à-dire la tête et le corps réunis. Donc, il revient sur les nuées du ciel, mais avec les siens, l'Église qui est son corps. Et peut-être qu'ici, évidemment, il faudrait toucher qu'est-ce que c'est que l'Église. Mais vous le savez, l'Église, c'est le corps de Christ. Je ne veux pas sortir de mon sujet qui est « je viens bientôt ». Oui, je viens bientôt, mais pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que c'est que cette Église, eh bien, c'est tous les croyants depuis la Pentecôte, tous ceux qui ont donné leur cœur au Seigneur, et il y en a dans tous les milieux, n'en excepté aucun. Le Seigneur lui seul connaît ceux qui lui appartiennent. Et voyez-vous, quand on lit l'histoire des sept églises dans l'Apocalypse, il est dit à l'une d'elles qu'il lui donnera l'étoile du matin. Même s'ils ne connaissent pas la vérité de l'enlèvement, ils seront enlevés quand même. C'est pas la connaissance qui va sauver, hein. C'est l'amour que l'on a eu pour le Seigneur. Parce que comme nous le disions l'autre jour, avec votre connaissance de H2O au désert, vous ne boirez rien. Votre H2O ne vous servira à rien. Des connaissances bibliques seulement, eh bien, ne servent à rien si elles ne sont pas vécues, si ce n'est pas la réalité dans nos vies. Le bédouin qui ne sait rien de tout ça, mais qui connaît où est le puits, eh bien, lui vivra sans avoir des connaissances de formule chimique. Alors, croyez-le bien, l'Église, elle est formée de tous ceux qui aiment le Seigneur Jésus. Et quand je reçois certaines lettres, elles sont brûlantes d'amour. Et ces lettres qui me viennent, je ne dirai pas d'où, eh bien, elles font brûler mon cœur. Quand je lis ces lettres-là, ce n'est pas des plaintes, c'est un accent pour le Seigneur, pour sa personne, pour cette adoration de la personne de Jésus. Cela me fait pleurer bien souvent. Et la reconnaissance que ces gens ont, qu'on leur ait apporté la parole de Dieu. Et leur prière pour que je puisse vivre encore longtemps, pour que j'aie encore cette liberté. Alors, si vous lisez l'Ancien Testament, vous verrez tout de suite que le monde est divisé en deux. Dans l'Ancien Testament, vous voyez les nations et puis un peuple à part qui s'appelle Israël. Tout l'Ancien Testament est composé donc d'une part des nations que Dieu laisse suivre leur voie avec leur conscience, puis il leur a donné la loi naturelle pour les guider, mais au sein des nations, il s'est choisi un peuple qui s'appelle Israël, hein, descendant d'Abraham. Et à ce peuple, il lui a donné une loi et qui va plus loin que les lois naturelles, que tous les païens sont censés connaître, c'est pour ça qu'ils sont inexcusables. On est inexcusable de violer les lois naturelles, et nous aussi les chrétiens. Si vous violez les lois naturelles, eh bien ne vous plaignez pas si vous allez par bon vers l'éternité. Si on mange trop, comme on disait, les excès de table, ben, ça risque de vous emmener plus vite au cimetière. Tout chrétien que vous êtes, on fera un beau discours sur le cimetière, oui. Mais c'est pas ça, hein. Attention, attention. Nous n'avons pas le droit de violer les lois naturelles, mais nous avons aussi un peuple qui avait la loi de Dieu, les 10 commandements, que vous connaissez aussi, même si nous ne sommes pas sous la loi, comme nous le voyons ce matin. Alors, ça, c'est l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, nous voyons toujours les nations et puis le peuple d'Israël. Ils sont maintenant réunis à Jérusalem. Le peuple d'Israël où est né le Seigneur livre Jésus aux nations qui sont représentées par Pilate. Et c'est nous les nations qui crucifions le Seigneur. Mais comme je disais en 1955 à Tunis, en Tunisie, dans un grand congrès juif, vous nous l'avez livré et nous l'avons crucifié. C'était avant Vatican II. Hein. Alors, parce qu'il y avait 400 personnes, là, juifs, et puis il fallait leur parler du Seigneur, c'est pas drôle. Hein. Et quand on est dans l'Ancien Testament, on les sent avec nous. J'ai vécu un petit peu ce qu'Étienne devait sentir quand il parle d'Abraham et de toutes les gloires de l'Ancien Testament. Mais quand il faut arriver qu'il est le peuple qui a donné naissance au Messie, alors là, on voudrait s'arrêter, surtout avant la crucifixion. Parce que Jésus, c'est quand même un grand bonhomme, même pour les juifs, hein, selon le monde. Mais quand il faut dire qu'il a été crucifié, eh bien, on ne dira pas le peuple déicide, mais nous dirons, vous nous l'avez livré, le seul qui a rendu votre loi grande et honorable, vous n'avez pas pu le supporter, vous nous l'avez livré, et nous, païens, nous l'avons crucifié. De sorte que nous sommes maintenant tous coupables devant Dieu, et il ne peut plus y avoir de salut que dans la grâce de Dieu, aussi bien pour le juif que pour celui qui est appelé le grec. Hein. Alors, vous voyez apparaître dans le Nouveau Testament un troisième peuple, qui est l'Église de Dieu. Chapitre 10 des Corinthiens. versets 32, 31 et 32. C'est là que vous voyez un troisième peuple, l'Église de Dieu, qui est distincte d'Israël. Parce qu'il y en a beaucoup qui disent que l'histoire d'Israël, maintenant, elle est terminée, c'est l'Église qui remplace Israël. Je ne le pense pas. D'autres peuvent le croire, mais je ne le pense pas. Israël a une vocation distincte. Et comme je vous dirai, qu'on m'a demandé dans un journal catholique qui va partout, d'écrire sur la vocation d'Israël, je me suis dit, ils ne le publieront jamais. Ils n'ont pas enlevé une ligne. Et quelqu'un m'a dit à Jérusalem, ben c'est bien le moment hein, qu'on entende ça dans notre Église. Mais ça s'était fait au Québec. Hein. C'est un journal du Québec qui était envoyé jusque-là. Il n'y avait pas une ligne de retranché où je montrais que c'était ni Rome, ni Genève, hein, ni Washington, ni Moscou, mais Jérusalem qui deviendrait la capitale du monde. Ben, ils l'ont dit. Ils n'étaient pas pour faire plaisir aux Juifs. Croyez-le bien, hein, mais c'est parce que la parole de Dieu le dit. Et c'est une distinction entre la vocation d'Israël, peuple élu, peuple terrestre de Dieu, mais qui a manqué sa vocation, qui a péché, qui a été mis à l'écart pour un temps. Relisez le chapitre 9, 10 et 11 des Romains. Et ensuite, alors, vous voyez que Dieu sauvera Israël aussi. Il y a un temps de salut pour Israël, même s'ils ne se convertissent pas maintenant. Il y a une dispensation tout à fait particulière pour Israël. Et alors, nous devons sonder les Écritures pour être bien au clair, ne pas trop en dire et puis ne pas avoir aussi cet amour fanatique pour Israël, parce qu'on est des chrétiens qui croyons à la Bible et qui croyons à la vocation d'Israël. Alors, n'est-ce pas, il y a un amour béat. Quand les Israéliens tuent les Arabes, on dit presque alléluia, c'est certain. Ou quand on va brûler une mosquée musulmane, on se dit, oh ben ça, c'est ça qui hâte le retour du Seigneur. Celui qui a mis le feu à la mosquée de Delacta, il a cru qu'il allait hâter le retour du Seigneur. Alors, il y a un fou amour pour Israël. Et même en Israël, les Juifs orthodoxes, ils ont écrit « Les Allemands ont fait du savon avec nos corps et le gouvernement d'Israël fait de l'argent avec nos âmes ». C'est des Juifs qui écrivent ça. Parce qu'ils croient que la rédemption d'Israël ne peut venir que de la venue du Messie. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce Messie, c'est celui qui est déjà venu et qui a les mains percées et qu'un jour, ils devront reconnaître, pleurant, comme nous l'avons dit, sur eux-mêmes, chacun, comme on pleure sur un fils unique. Et comme on pleure sur un premier-né, fils unique du père et premier-né de Marie. Oui, mes amis, il faut que vous sachiez verset 17. Alors, vous voulez que je vous dise ce que ce sera le retour du Seigneur pour Israël, ce que ce sera le retour du Seigneur pour le monde, et ce que ce sera le retour du Seigneur pour l'Église. Eh bien, pour l'Église, le premier événement qu'elle attend, c'est l'enlèvement. Mais qu'est-ce que l'Église? C'est les rachetés du Seigneur où qu'ils se trouvent. Dans toutes les dénominations, il y en a eu au travers des âges. Et ne pensez pas que vous êtes, vous, les premiers vrais chrétiens. Il y en a eu avant vous. Et moi, je me sens lié, relié jusqu'au temps des apôtres, à tous ces hommes de Dieu et qui ont lutté, qui ont souffert dans leur église, même la prison, et qui ont été des témoins. Parce que Dieu s'est toujours maintenu un témoignage dans toutes les églises. Et dans les heures les plus sombres de l'histoire de l'église, il y a eu de la lumière. Croyez-le. Il y a eu de la lumière. Alors ne jugez pas les autres. Soyez heureux des connaissances que vous avez. Mais soyez toujours de ceux qui disent « Je ne suis sauvé que par moi. » Vous êtes d'accord? C'est la grâce qui nous a sauvés. Et je ne peux pas me satisfaire de mon salut. Je voudrais que les autres le soient aussi. Et je suis heureux quand j'entends ces nouvelles, quand je vois l'Esprit de Dieu qui travaille et que même dans leur dernier moment, certains papes ont pu dire « Le retour du Seigneur est imminent. Il n'y a que cela et qui peut changer le monde. » On arrive à changer sa théologie et à revenir à l'Écriture, à l'enseignement tout simple de l'Écriture. Je ne vous dis pas que c'est général. Je ne vous dis pas que les prêtres prêchent ça. Je ne vous dis pas que les pasteurs prêchent le retour du Seigneur. on pense que tout le monde doit, on sait, doit se convertir. Puis on a planifié jusqu'à l'an 2000 pour que tout le monde entier soit évangélisé. Mais je parle à votre intelligence, à l'an 2000, il y aura un tas de petits enfants aussi qui naîtront, des enfants nés de la chair. Donc c'est que le Seigneur ne reviendrait jamais s'il n'arrive qu'à la fin de l'histoire, comprenez-vous? Il arrive au cours de l'histoire. Il arrive dans le cours de l'histoire. Et puis la venue du Seigneur, ce n'est pas la fin du monde, comme beaucoup le croient. Ce n'est pas du tout la fin du monde. Parce qu'il doit y avoir encore un règne qui est appelé le millénium, le règne de 1000 ans, je ne dis pas que c'est 1000 ans exactement, mais il doit y avoir un règne de justice et de paix, parce qu'il n'y a encore jamais eu la paix sur la terre. Tous les règnes qui ont dominé le monde sont comparés dans l'Écriture à des bêtes féroces, n'est-ce pas, que vous trouvez dans Daniel et ailleurs, n'est-ce pas, plus féroces les unes que les autres, et la dernière bête, le dernier gouvernement du monde est plus effroyable que tous les autres. Et enfin, paraît sur les nuées du ciel, quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'approche de l'ancien des jours, et c'est lui qui reçoit le gouvernement du monde. Notre Seigneur Jésus, qui s'est appelé le Fils de l'homme. Et il faut qu'il règne, donc il doit revenir pour établir son règne, et il reviendra. Alors il faudrait que je vous parle de la scène céleste, il y en a qui seront donc dans la gloire, dans le ciel, avec le Seigneur, là il y aura le tribunal du Christ, nous y comparaîtrons tous, non pas pour être jugés quant à nos âmes, mais quant à nos œuvres, parce que les œuvres du chrétien, ça compte. Il faut que le monde voie vos bonnes œuvres pour qu'il croie. Voilà encore comment on peut hâter la venue du Fils de Dieu. Le monde, pour qu'il croie, il doit voir. Nous n'avons pas besoin de voir. Bienheureux celui qui n'a pas vu et qui a cru. Mais une fois qu'on a cru, on a cru pour servir. On appartient au Seigneur. On n'a pas seulement un sauveur, mais on a un Seigneur et on travaille pour lui. Et alors, c'est l'histoire des talents, c'est l'histoire des mines. Et si nous avons été fidèles depuis notre conversion dans ce qui est très petit, nous aurons une part dans l'administration du royaume. Mais si vous n'êtes pas fidèle ici-bas, le Seigneur ne pourra pas vous confier une tâche dans son règne. Alors c'est vous qui en éprouverez une perte. L'ouvrage de chacun sera éprouvé par le feu. Si vous avez bâti sur le fondement avec du bois, du foin, du chaume, ça brûlera. Hein. Vous serez juste sauvés comme au travers du feu. Mais il n'y aura rien qui reste pour le Seigneur. Votre salut à vous. Mais quel bonheur d'avoir une couronne, alors là on entrerait dans les couronnes, que nous pourrons jeter aux pieds du Seigneur dans les moments d'adoration céleste. Les saints jettent à ses pieds les couronnes. Est-ce que nous sommes un peu ambitieux depuis notre conversion de courir la course avec fidélité, ne nous laissons pas arrêter par les choses de la terre, par les choses matérielles? Je pensais qu'on allait dire ce matin, puisqu'on citait toujours les Éphésiens, qu'il est dit que nous sommes déjà assis dans les lieux célestes en Christ. De sorte que spirituellement, un croyant, c'est déjà un homme céleste. Sa position, elle est céleste. Il est déjà assis en Christ. Son cœur est déjà dans le ciel. Là où est ton trésor, là sera ton cœur. Mais votre trésor, c'est Jésus. Il faut que ce soit quelqu'un. J'entends toujours cette juive qui me disait un jour sur le Carmel, là, au-dessus d'Haïfa, dans une conférence que je faisais dans un hôtel. Elle disait, mais monsieur Racine, moi je veux bien donner mon cœur à Dieu, puisqu'il est dit dans les proverbes, mon fils donne-moi ton cœur, mais je voudrais le connaître, je ne sais pas qui c'est Dieu. Voilà une juive, hein. Et c'est là que ça me donnait l'occasion de montrer le besoin de l'incarnation. Le monde voudrait savoir qui est Dieu et comment montrer Dieu au monde par nos vies, Christ en nous, l'espérance de la vie. C'est lui qui est l'amour de Dieu, c'est lui qui est la manifestation de Dieu, l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Et c'est lui le salut, et c'est lui qui est en nous. Nous devons le laisser croître à la conversion. Il est encore petit enfant, hein, et puis il doit grandir en nous pour que nous arrivions à l'état d'homme fait, à la pleine stature du Christ, à la mesure de la stature du Christ. Alors, il y a les scènes célestes, il y a les noces de l'agneau dans le ciel. Puis alors, si je reviens aux scènes terrestres, eh bien, chers amis, c'est cela qui vous angoisse, peut-être. Vous dites, oui, mais alors ceux qui seront restés, eh bien, ceux qui ont connu l'Évangile, mais qui n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés, il est dit qu'une puissance d'erreur viendra sur eux et ils croiront au mensonge. On est déjà dans ces temps-là, on est tout prêt de croire n'importe quel bobard, n'importe quelle nouvelle. On les croit, on croit le mensonge. Ceux qui n'ont pas eu l'amour de la vérité pour être sauvés, ils croiront au mensonge. Une puissance d'égarement viendra sur eux. Oui, alors il n'y aura plus de séparation, on sera tous d'accord. Et un homme paraîtra, l'Antichrist, qui fera des miracles mensongers et le monde court vers les miracles. Il y a comme une préparation maintenant. On veut partout des miracles. Une église veut des miracles. Il faut que la puissance de Dieu se manifeste soi-disant par des choses extraordinaires. Mais le miracle, le premier, c'est une vie transformée. C'est une vie où on ne se plaint plus toujours de tous nos maux. C'est une vie où on loue le Seigneur, où on le glorifie. C'est ça, le grand miracle que le monde attend de voir. Parce que de toute façon, après tous les miracles, vous devez quand même mourir. Si le Seigneur n'est pas venu. Alors, croyons-le bien, j'ai besoin de la puissance de Dieu pour vivre en chrétien authentique, pour marcher dans les pas du Seigneur. Je crois aux dons spirituels. Je crois qu'il peut les donner. Je crois que le Seigneur peut guérir, peut rétablir. Mais il nous faut d'abord confesser nos péchés. Il nous faut d'abord nous purifier de toute notre mondanité, de toute cette influence qui est entrée aussi dans tous nos milieux et qui conduit notre esprit au lieu qu'on soit conduit par la parole de Dieu qui lave nos pensées, mais qui nous purifie. Alors, je ne veux pas m'allonger sur cette question de ce qui se passera sur la terre, mais croyez-le bien, ceux qui n'ont pas entendu l'Évangile, eh bien, ils entendront l'Évangile du royaume, parce que l'enlèvement des croyants fera quand même un choc, et qui va certainement secouer bien du monde, et en particulier justement ceux qui n'ont pas entendu. Parce que ceux qui ont entendu, ils s'endurciront. Et puis, alors ceux qui n'ont pas entendu, il ne faut pas penser qu'ils seront perdus. Ils auront l'occasion d'entendre l'évangile du royaume. Nous entendons l'évangile de la grâce. Quand Jésus est venu, il a porté l'évangile du royaume. Mais le royaume n'ayant pas pu s'établir, puisque le roi a été rejeté, l'évangile qui a été annoncé maintenant pour nous, c'est un évangile de grâce. C'est un évangile de grâce. C'est pas l'évangile du royaume, c'est l'évangile de la grâce. Si vous êtes sauvés, si un jour vous êtes au ciel, c'est par grâce. Mais pour les autres, eh bien, ce sera l'évangile du royaume, parce que le royaume viendra avec le Christ total. Alors les gens se convertiront dans l'attente de la venue alors visible du roi, qu'on saura quand même être dans le ciel, puisqu'on ne retrouvera pas dans nulle part, comme on a cherché Élie ou Enoch, on ne les retrouve pas, il n'y a pas de trace. Donc ils sont quand même quelque part. Et alors, ce qui aura de merveilleux, et c'est ça qui concerne les Juifs, il y a des hommes nouveaux qui vont se convertir au Christ, mais qui ne sont pas compromis dans toutes les iniquités de l'Église chrétienne, de ce qui s'appelle l'Église chrétienne. Parce qu'au nom de Jésus, on a fait les croisades. C'est pourquoi, mes amis, je ne comprends pas, depuis 40 ans que je prêche, qu'on appelle ça encore croisade. Quand vous parlez à des musulmans, eh bien, c'est ce qu'ils vous disent d'abord. Vous, les chrétiens, vous nous avez massacrés dans les croisades. Puis on parle de croisade pour annoncer l'Évangile. Vous n'amènerez jamais un musulman à vos croisades. Que vous puissiez changer de nom, mais qu'est-ce qu'on attend pour cela? Alors, on attend que ce soit eux qui nous convertissent, les musulmans. Oui, ils montent, il y a bientôt plus de mosquées en France qu'il n'y a d'églises. Alors, nous sommes vraiment butés. Le Seigneur doit nous parler, mais évidemment, ne pas être d'accord avec tout le monde, ne pas être d'accord avec ceux qui ont de la finance. C'est difficile. Qui paye commande? Non. Nous sommes au service du Seigneur. Un lien direct avec le Seigneur Jésus. C'est cela qui doit nous caractériser. Vous aimez bien dire qu'il faut se tenir debout, hein? Vous le dites au Canada. Bien oui, ben, tenez-vous debout. N'ayez pas peur de vous tenir debout, même si ça vous coûte. Et ensuite, après cet évangile du royaume qui sera annoncé par ces croyants juifs qui, eux, ne sont pas compromis dans les scandales du christianisme, parce que c'est aussi difficile pour nous de prêcher l'évangile à des juifs aujourd'hui. Ils nous disent, vous avez fait l'inquisition, vous avez fait l'holocauste. Moi, je vous proposerais de faire une mission que vous appelleriez holocauste évangélique. Vous invitez les juifs pour vos réunions. C'est comme une croisade. Eh bien, c'est la même chose pour les musulmans. Alors, si vous appelez ça holocauste évangélique, on pourrait encore tourner ça spirituellement, l'holocauste. N'est-ce pas? Mais tellement stupide. Que le Seigneur désigne nos yeux et qu'il nous secoue et qu'il nous donne de manger la parole. On dira, mais vous savez, vous dites quand même des choses trop fortes. C'était très bien ce que vous avez dit dans la première partie, mais le dernier quart d'heure. Il y a un homme qui m'a dit un jour, si tu n'avais pas eu le dernier quart d'heure, tu aurais vu dans toute la salle. Tu m'aurais vu venir me traînant à genoux pour baiser tes pieds. J'ai dit, heureusement qu'il y a eu le dernier quart d'heure. Heureusement qu'il y a eu le dernier quart d'heure pour l'empêcher de faire un truc pareil. Comprenez, chers amis, on reçoit ce qu'on veut, mais ce qui nous touche, non, il ne faudrait pas le dire. Il ne faudrait pas dire, oh Jésus, tu n'aurais jamais dû faire le discours, les derniers discours là, de la semaine sainte, ça t'a fini, hypocrite, aveugle, fou, race de vipère, serpent. Ah, qu'est-ce qu'il disait ça aux autorités religieuses? Sépulcre blanchi, hypocrite. Vous comprenez qu'après ça, trois jours après, c'est la croix. Ben, Jésus, quand même, ça peut être prudent. Vous comprenez cela? Oh, que le Seigneur vous inspire, qu'il y ait un prolongement à ces rencontres et que vous puissiez comprendre. Il y aura encore l'évangile éternel après que ces juifs auront annoncé l'évangile dans de terribles persécutions parce qu'on ne pourra plus acheter ni vendre si on n'a pas la marque de la bête. Et vous voyez que tout cela, le chiffre se propage de plus en plus. Tout se prépare et finalement, eh bien, il y aura l'accomplissement de toutes ces choses. Et quand on dira paix et sûreté, parce qu'il y aura un temps après l'enlèvement de l'Église où le monde, guidé par l'Antichrist, croira être arrivé au règne de paix, que voulait déjà Hitler. Mais c'est au moment où ils diront paix et sûreté dans leur incrédulité qu'alors le Seigneur apparaîtra, c'est là qu'Armageddon est, tout ce que vous voulez, et qu'il anéantira les méchants par l'épée qui sort de sa bouche, mais l'enlèvement aura déjà eu lieu et nous serons avec lui dans ce retour glorieux. Mais croyez-le, ceux qui n'ont pas entendu l'évangile auront l'occasion de l'entendre. Il y aura même l'ange au chapitre 14 qui prêchera l'évangile éternel. Il y a l'évangile de la grâce, il y a l'évangile du royaume, il y a l'évangile éternel, et chaque mot a sa signification. Et alors, quand le Seigneur revient, eh bien, il revient pour juger alors les nations, d'après le témoignage, c'est pas juste le titre que vous avez dans vos Bibles, second peut-être, jugement dernier au chapitre 25 de Matthieu, c'est le jugement des nations, c'est pas le jugement dernier, où chacun sera jugé d'après l'attitude qu'il aura eue à l'égard de ceux que Jésus appelle ses frères juifs qui auront annoncé l'évangile dans toutes sortes de tribulations, on les aura cachés, on leur aura donné à manger, j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais malade et vous m'avez recueilli. Ça peut être aussi pour nous maintenant, cela, comprenez-vous, spirituellement, mais littéralement, il y aura son accomplissement. Ah, parce que les gens diront, mais Seigneur, quand est-ce que nous avons vu avoir faim et que nous avons nourri? En tant que vous l'avez fait à ces petits qui sont mes frères, vous l'avez fait à moi-même. Alors il leur dira, entrez dans le royaume. Tandis que les autres qui diront, mais Seigneur, nous ne t'avons pas vu avoir faim, quand est-ce que nous ne t'avons pas donné à manger? En tant que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, vous ne l'avez pas fait à moi, allez-vous en manger dans le feu éternel qui est préparé pour le diable et ses anges. Et alors là, le Seigneur, c'est près de 20 de l'Apocalypse, le Seigneur jugera donc les nations et nous serons aussi avec lui, les apôtres auront leur gloire dans l'administration de ce royaume, et c'est le royaume de justice et de paix que le Seigneur établira. Toute la terre sera délivrée du joug de la corruption, et il est dit que les blés bruiront sur mille montagnes. Déjà maintenant, chers amis, s'il y avait un règne juste, le monde entier a assez pour nourrir le monde. Il y a assez de nourriture pour qu'il n'y ait personne qui meure de faim. Mais c'est parce que c'est mal administré. Mais quand il y aura une administration du Seigneur avec les membres de son corps et qu'Israël sera sauvé, aura reconnu le Seigneur après la grande tribulation, après de terribles épreuves, c'est pour ça que les Juifs qui se convertissent maintenant font partie de l'Église et éviteront la grande tribulation. Parce que le Seigneur, nous pensons qu'il revient avant. Mais ceux qui auront dû passer par cette tribulation et qui seront morts ressuscitent pour régner avec le Seigneur. Ils ont part aussi à la première résurrection qui se fait en plusieurs étapes, en plusieurs phases. Et enfin, après 1000 ans de paix, sous le règne du Seigneur, qu'est-ce qu'il y aura? Le diable aura été lié pendant 1000 ans. C'est pour ça qu'il y aura une prospérité incroyable dans le monde végétal, dans le monde animal. Le petit enfant pourra conduire aussi le lion et les bêtes féroces, elles ne seront plus féroces. Ce sera quand même merveilleux. Le désert et la terre aride fleuriront, ces chapitres merveilleux. Eh bien, Satan sera délivré et ce sera la dernière épreuve de l'homme. Après 1000 ans de paix, hein, qu'est-ce qu'ils feront? Ils voudront se révolter contre le gouvernement de Jésus. Après avoir connu 1000 ans de paix, et c'est cela qui montrera bien ce qu'est le cœur de l'homme. C'est pourquoi, pendant le règne, il est dit que le méchant sera retranché tous les matins. Maintenant, Dieu laisse les méchants vivre, hein, parce qu'il leur donne le temps pour se convertir. Tandis que quand il sera là, le mal ne pourra pas subsister. Hein. Immédiatement, le méchant sera retranché. Alors, comme il y aura vraiment la peine de mort, hein, ils n'auront pas besoin de discuter de ça à Ottawa, eh bien, et comme ce sera vrai, il y en a qui feront le poing dans la poche. Hein. Mais quand ils auront l'occasion de pouvoir montrer leurs sentiments, ils se révolteront contre le Seigneur. Et c'est là que le feu du ciel descend et qu'il y a la fin du monde, le ciel et la terre passent, et puis le grand trône blanc, le jugement dernier, mais qui vient donc après les 1000 ans, et puis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Alors, voilà, j'avais encore à vous parler de l'époque de son retour. Est-ce que l'on peut préparer? Pour l'enlèvement de l'Église, je dis simplement ceci, il n'y a pas de signe, de sorte que les premiers chrétiens pouvaient l'attendre de leur vivant. Mais ce qui nous fait penser que nous sommes très proches de cet enlèvement, c'est qu'on voit commencer les signes de son retour en gloire. Israël retourne déjà dans sa terre, le figuier reverdit, c'est pas encore l'action de Dieu, c'est l'action des hommes ça, mais c'est quand même un signe. Et puis alors, le temps où nous vivons, ce sont des temps fâcheux, les hommes du monde les plus grands sont déboussolés, ne savent pas ce qui va arriver, c'est la crise partout, Et nous sommes, au point de vue moral, dans les temps de Noé. Il en sera comme au jour de Noé. Oui, il y a la prospérité dans certains pays. On mange, on boit, et puis le déluge vient, et les tous périrent. Ce sera un temps comme ceux de Sodome. Et qu'est-ce qui caractérisait Sodome? Le sida. Ce qui caractérise Sodome, c'était l'homosexualité. Or maintenant, c'est tout à fait normal, vous avez des cortèges d'homosexuels, on donne la scène aux homosexuels, on marie dans des églises des homosexuels. J'ai une grande compassion pour eux, j'irai leur annoncer l'évangile, aussi aux lesbiennes, c'est pas ça, mais leur donner la communion, vous comprenez, c'est impensable. Les regarder comme moines du corps de Christ et prétendre que c'est bien, que c'est cela, au nom de l'amour, tout est permis. Non, chers amis, nous sommes dans les temps de Sodome, nous sommes dans les temps de Gomorre, et vous savez qu'il ne reste plus rien de Sodome et de Gomorre. Il en sera comme en ces temps-là, quand le Fils de l'homme viendra, toi, qui la fois sur la terre, les enfants se révolteront contre les parents, relisez ces chapitres, eh bien, au point de vue moral, on voit que nous sommes arrivés dans ces temps, on peut distinguer l'époque. Vous savez distinguer les signes du ciel, si vous ne savez pas distinguer les signes des temps. Nous croyons que la venue du Seigneur est proche. Parce que autrefois, le mal, on le faisait dans la nuit, caché. Tandis que maintenant, on le fait en pleine lumière. On se glorifie de ce qui devrait être notre honte. Voilà les temps dans lesquels nous vivons. Alors ça nous montre que nous sommes dans une époque où un grand événement doit venir. La colère va venir sur le monde, et une colère, un jugement qui sera à la mesure de ses iniquités, mais nous n'attendons pas la colère, nous attendons Jésus qui nous délivre de la colère qui vient. Je n'ai fait qu'ébaucher ces questions-là. Alors, en finale, n'est-ce pas, nous avons discerné le temps, l'époque, nous ne fixons pas le jour, nous ne fixons pas l'heure, hein, parce que l'heure et le jour ne sont pas les mêmes partout dans le monde, hein, à cause du décalage horaire. Alors, c'est bien simple, hein. Ce ne sera pas la même heure, mais ce sera le même moment. Mais ce ne sera pas le même jour, alors vous ne savez ni le jour ni l'heure. Mais l'époque, on peut quand même la discerner. Nous avons donc à veiller à être les témoins du Seigneur. Le monde sera libéré de la servitude. Et quel but a ce retour de Christ? Eh bien, c'est la délivrance de la création, c'est qu'il faut que le Seigneur règne, il doit régner, il faut qu'il règne. Il a été établi juge des vivants et des morts, c'est le grand trône blanc, le jugement dernier. La justice de Dieu sera ainsi manifestée, et Dieu aura donné une dernière occasion à l'homme pour qu'il connaisse sa misère, mais aussi la grâce de Dieu. Et puis alors, quels seront les résultats de son retour? Eh bien, c'est tellement beau de penser que le conseil de Dieu sera enfin accompli, le dessein de Dieu sera réalisé, Dieu sera tout en tout. Car quand le Christ aura régné, il remettra le royaume à Dieu le Père, et il dit, Dieu sera tout en tous. Et c'est l'histoire de la nouvelle Jérusalem qui descend. Ciel. Un nouveau ciel et une nouvelle terre, il n'y a plus de mort, plus de cris, plus de larmes, plus de pleurs, parce que le péché n'existe plus. Dieu le Père a une famille, Dieu le Fils a une épouse, et Dieu le Saint-Esprit a un temple. L'agneau lui-même est le temple de cette cité qui n'est pas construite par les hommes, mais qui descend auprès de Dieu. Puissiez-vous être des gens de la vie sainte, non pas des gens de la cité du monde, mais des gens du paradis de Dieu. Amen.